l'occasion de la sortie prochaine du premier titre de Takemiya Keiko en France, Destination Terra, édité chez les éditions Naban, je me suis dit qu'il était temps de faire le point avec vous sur le groupe de l'an 24 et les autrices de shoujo manga des années 70. Au Japon, les 70s commencent par la sortie du film d'animation Cléopâtre, réalisé par Osamu Tezuka et Eiichi Yamamoto sur grand écran, et par l'exposition universelle qui se tient dans la ville d'Osaka. La décennie est marquée, comme la précédente, par une croissance économique étonnante. L'auteur Yukio Mishima, de son côté, écrit sa mère de la fertilité avant d'effectuer un coup d'état et de se seppuku. Aussi, depuis que les Jacks ont quitté la scène rock en 1968, le pays commence à monter des labels de musique populaire et indépendante, marqués par l'identité japonaise, symbole d'une émancipation progressive de l'occupant américain. On écoute Haruyumi Osumi. Ce qui est du manga, la décennie se symbolise notamment par un renouveau du shoujo manga. Si les femmes ont déjà une place dans le paysage, elles vont connaître un avènement sans pareil en devenant à cette époque majoritaire auprès des magazines de prépublication destinés aux filles. Pour comprendre cette évolution, je vous propose de partir quelques décennies en arrière. Si l'on remonte aux origines, il faut revenir au début du XXe siècle. Kyoko Inagaki explique dans Jogaku Seito, Jogaku, Kyoyo, Tashinami, Modan Bunka que les 30 premières années du XXe siècle au Japon sont marquées par un programme scolaire spécifique pour les jeunes filles qui, depuis 1893, peuvent accéder à l'école dans les classes primaires. Sont introduits des cours dédiés à la gestion du ménage, à la couture, à la musique, mettant au second plan les matières telles que les mathématiques, les langues ou les sciences. On veut faire des filles de bonnes épouses / sages-mères selon la volonté du gouvernement. Cela aura inévitablement un impact sur les objets de divertissement auxquels les jeunes filles peuvent accéder. Mayuko Ito explique d'ailleurs dans sa thèse « La jeune fille japonaise, émergence et développement de la shoujo de 1910 à 1930 au Japon » que se dessine à cette époque une shoujo identity. Sans entrer dans les détails étymologiques du terme shoujo, il faut comprendre que c'est sous l'ère Meiji qu'est entériné ce terme dans le vocabulaire japonais qui désigne les filles en dessous de l'âge de 20 ans et que jusqu'en 1890, shonen était le terme générique qui désignait la jeunesse, le concept d'enfant n'étant présent dans la société japonaise que depuis une quarantaine d'années. Shoujo apparaît pour la première fois dans le magazine Eisai Shinshi, et commence alors une distinction précise entre filles et garçons, scellée par la publication du magazine Shoujo Kai en 1902. Shoujo devient alors une catégorie démographique, une cible éditoriale. Mayuko Ito constate que deux magazines aux lignes éditoriales opposées se partagent les abonnements à partir de 1908, avec l'arrivée sur le marché de Shoujo no Tomo, qui s'adresse à la classe moyenne et participe à donner une représentation moderne de la femme, en mettant en avant des femmes qui travaillaient, des célébrités féminines, tandis qu'arrive en 1923 le Shoujo Club, plus traditionnaliste, qui participe à étendre l'image de la bonne épouse, sage-mère. C'est dans le premier que Junichi Nakaora fait ses débuts en tant qu'illustrateur, faisant entrer dans le canon les représentations féminines affublées de grands yeux dramatiques qui fera la marque de fabrique des héroïnes de shoujo manga. On pointera d'ailleurs du doigt le fait que ces grands yeux donnent une connotation occidentale au personnage dessiné, représentation d'un idéal inaccessible et fictif. Nakaora dira pour se défendre en 1937. Je n'ai pas de modèle pour les filles que j'illustre. Elles sont différentes des filles de la réalité, mais je pense voir la beauté véritable des filles, et je la vois plus que n'importe qui. Le directeur éditorial de Shoujo no Tomo, Uchiyama Motoi, dira de son côté que les filles de Nakaora n'ont pas de véritable consistance, pas d'identité sexuelle, une idée très présente dans le shoujo manga jusqu'au début des années 1960. Nakahara apporte une deuxième pièce à l'édifice du manga destiné au public féminin, celle de la technique du shadowgraph qu'il développe notamment dans de petites histoires muettes et illustrées en séquentiel. Il joue d'aplat de valeurs noires et blanches, souvent accompagnées de couleurs vibrantes, proposant ainsi des cases rappelant des ombres chinoises. La technique sera reprise, elle est encore aujourd'hui aussi bien dans les mangas que dans l'animation qui s'adresse à cette jauge démographique. Il est à noter que le manga n'a qu'une petite place dans les magazines d'avant-guerre et leur présence se résume à seulement quelques pages, quelques cases. Rachel Thorne explique dans son article Shoujo Manga Something for Girls en 2001 que la Deuxième Guerre mondiale a tué dans l'œuf l'émergence des bandes dessinées destinées aux enfants qui, jusque-là, lisaient principalement des récits illustrés. On trouve néanmoins, à partir de 1934, le titre Nazo no Kuraba de Katsuji Matsumoto, 16 pages publiées dans Shoujo no Tomo, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui protège les paysans de son village contre des nobles. Cette parution courte sera suivie à partir de 1938 par la sérialisation de Kurukuru Kurumi-chan, dont la publication sera interrompue 2 ans plus tard, c'est la guerre, rationnement papier oblige. C'est effectivement après-guerre que le manga se développe considérablement avec comme chef de file Osamu Tezuka qui puise son inspiration dans les productions américaines et particulièrement celle de Walt Disney. Parmi les mangaka qui s'adressent aux jeunes filles, Katsuji Matsumoto va revenir avec Kurukuru Kurumi-chan dont il fait évoluer la structure. Inspiré du comic strip, il raconte chaque épisode de la petite Kurumi-chan sur 22 cases et 4 pages. Tezuka se prête également à l'exercice avec Princesse Saphir à partir de 1953 dans lequel il narre comment une jeune princesse va se grimer en garçon pour accéder au trône dont elle est héritière. Tetsuya Shiba, quant à lui, fait ses débuts de mangaka avec Botukai no Shoujo en 1958 avant de se tourner vers le shonen manga à partir des années 60 avec l'emblématique Ashita no Joe. On note également la présence de Shotaro Ishinomori qui apportera quelques productions. Aux côtés de ces hommes se trouvent des femmes. Parmi elles, Machiko Asegawa, qui commence sa carrière en 1946 avec sa série Sazae-san, qui sera publiée quotidiennement à partir de 1949 dans Asahi Shimbun. Impossible de laisser de côté ce titre, qui se concentre sur une relation mère-fille, puisqu'il sera adapté pour la radio, puis pour la télévision, avec une adaptation animée à partir de 1969. On trouve quelques années plus tard Toshiko Ueda qui, assistante de Katsuji Matsumoto avant-guerre, reprend les crayons et les plumes en 1951 pour une première publication dans le magazine Shoujo Book avec sa série Boku-chan. Se trouve parmi ses autrices Masako Watanabe, originellement illustratrice, qui se tourne vers le manga dès 1952 avec le titre Namida no Sambika et qui se taillera la réputation d'être la pionnière du manga d'horreur destiné aux jeunes filles dans les années 60. Elle fait partie des mangaka féminines les plus populaires de son époque, statut qu'elle partage avec Miyako Maki et Hideko Mitsuno. La première commence sa carrière en autodidacte en 1957 avec son manga Ahakoi Warutsu. Elle collabore avec son mari et mangaka Leiji Matsumoto à des titres destinés aux jeunes filles, celui-ci ayant commencé sa carrière auprès de cette cible éditoriale. Miyako Maki écrit notamment sur la danse avec des titres comme Maki no Kuchibue en 1960, un véritable succès public pour le magazine Ribbon, qui n'existe que depuis 5 années et qui devient un allié de poids pour les jeunes autrices. Maki écrira également des mangas de style Haha Mono, centrés sur des relations familiales mère-fille. La popularité de ces personnages est d'ailleurs telle que le fabricant de jouets Takara s'en inspire en 1967 pour créer la poupée Lika-chan, concurrente nationale de l'américaine Barbie. L'autrice quitte finalement cette cible éditoriale pour s'adresser à un public de femmes adultes. Hideko Mizuno, quant à elle, participera à ce que je me permets d'appeler la première révolution du shoujo manga, sans laquelle les autrices des années 1970 n'auraient clairement pas pu écrire ce qu'elles ont écrit. Elle insiste effectivement longuement auprès de son éditeur du Ribbon pour publier des histoires d'amour, on est encore dans les années 60. Elle fait partie d'une longue lignée d'artistes à vouloir dépasser le stade de l'enfance dans les récits destinés aux filles et à faire évoluer des protagonistes adolescents. La première femme qui publie des romances est Nishitani Yoshiko avec Marilou dans le célèbre magazine Margaret en 1965, suivie un an plus tard par le titre Lemon and Cherry, qui a la particularité de prendre place dans un Japon contemporain, un contexte spatio-temporel jusqu'alors très peu exploité. En 1969, Hideko Mizuno voit son titre Fire publié dans le mensuel Seventeen. Il s'agit du premier shoujo manga avec des scènes de sexe explicites. On dépasse ainsi le principe bien ancré et imposé par Junichi Nakahara 30 ans plus tôt de la shoujo sans sexualité. Ces autrices parviennent ainsi à fidéliser un public plus âgé que par le passé, les adolescentes sont touchées et s'identifient, la voie est ouverte à une prochaine génération de mangaka. À la fin des années 60, les maisons d'édition, face à la demande croissante, engagent de nouveaux artistes par un système de concours. Les aspirants et aspirantes mangaka envoient alors quantité d'histoires et peuvent avoir l'opportunité d'obtenir un contrat. C'est ainsi que commence la carrière de nombreuses autrices. L'arrivée des romances sur le marché de la prépublication est un véritable bond en avant et celles-ci deviennent le genre le plus populaire dans les magazines de prépublication destinés aux jeunes filles. Comme l'explique Dalma Kalovic dans Les liens manquants de l'histoire du shoujo manga, les changements du shoujo manga à travers le magazine Shukan Margaret, il faut prendre en compte le fait que l'année 1968 marque un tournant pour la publication des shoujo manga. Jusqu'alors, seuls les magazines de prépublication permettaient d'accéder aux bandes dessinées. Ce n'est que cette année-là qu'arrivent sur le marché les formats tankobon qui rassemblent les histoires en les compilant. Le magazine Margaret se lance ainsi le 5 janvier 1968 avec trois titres phares de son catalogue, Marilou de Nishitani Yoshiko, Heidi de Masako Watanabe et Sutekina Kora de Hideko Mizuno. Il faut ici comprendre que si les mangaka qui suivront ont autant marqué l'inconscient collectif, c'est aussi parce qu'elles ont eu cette possibilité de se voir d'abord prépubliées, puis publiées sous d'autres formats, permettant un archivage plus aisé de leurs travaux et offrant la possibilité aux lectrices d'avoir leurs œuvres à portée de main sous forme de collection et d'y revenir plus aisément. L'intérêt pour le shoujo manga croît considérablement avec la publication de La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, inspirée de Princesse Saphir de Tezuka, à partir de 1972 dans le magazine Margaret. La série raconte comment Oscar François de Jarjaïès, une jeune noble éduquée comme un garçon, devient la confidente de Marie-Antoinette, puis le porte-étendard de la Révolution française. La décennie est marquée par une deuxième révolution au sein de la ligne éditoriale shoujo avec ce que nous retenons aujourd'hui comme le groupe de l'an 24, Ninju Yonen Gumi, en japonais. Collectif non officiel, ce titre vient du fait que les fondatrices du renouveau du shoujo manga de l'époque sont nées en 1949, année 24 de l'ère Showa. Cependant, on ne peut décemment pas réduire la quantité d'autrices de cette décennie à cette année de naissance et je vous invite donc à y voir un terme générique pour évoquer un mouvement au sein de la production de manga pour filles initié par des femmes nées entre 1945 et 1950 qui a eu lieu dans les années 70. On note néanmoins la présence invariable de trois femmes considérées comme pionnières, Moto Hagio, Ushima Yumiko et Takemiya Keiko, qui reconnaît être elle-même à l'origine de la dénomination groupe de l'an 24. La chercheuse et traductrice Rachel Thorne explique qu'à cette époque, presque tout était devenu possible dans le shoujo manga. Il faut dire que les artistes font preuve d'inventivité pour diversifier les productions, la possibilité de s'adresser à des jeunes filles adolescentes et à de jeunes adultes leur étant désormais donnée. Inspirée par celle qui la précède, la nouvelle génération impose une nouvelle manière de narrer les mangas. C'est Watanabe Masako qui, à partir du milieu des années 1960, va proposer des monologues internes qui permettent aux lectrices d'accéder directement à la psyché des personnages. Anamura Eiko se démarque également de ses pairs entre 1966 et 1967 avec le manga Kirei no Naka no Shoujo en proposant un développement complexe des relations et des émotions de ses personnages. Le monologue intérieur devient rapidement une norme dans les années 70, en témoigne La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, pour ne citer qu'un exemple des plus connus. Si cela semble relativement logique aujourd'hui, il faut bien comprendre que cette manière de raconter les histoires dans le shoujo manga est relativement inédite au début des années 1970. Il s'agit là d'une évolution qu'on pourrait considérer comme naturelle, la cible éditoriale étant plus âgée qu'auparavant. Cette nouvelle manière de raconter les histoires va s'accompagner d'une déstructuration de la planche pour mieux illustrer les pensées et les réflexions des personnages. On constate même dans certaines œuvres que la case disparaît complètement pour laisser place à des éléments qui construisent le monologue intérieur du personnage sans avoir besoin d'utiliser de mots. La bulle devient alors parfois facultative, les artistes expérimentent. Les personnages sortent du cadre, s'en exemptent, flottent dans un coin de la page. On fait le focus sur le regard ou sur des éléments du corps. Les titres de science-fiction vont venir jouer sur le contraste du noir et du blanc avec beaucoup plus d'insistance que par le passé, l'immensité de l'espace devenant un terrain de jeu pour les mangakas. Les artistes vont user de différentes techniques pour travailler leur décor et le design de leurs personnages, comme le pointillisme. La trame, déjà présente, se fait encore légère sur les planches de shoujo manga, certaines mangaka créant elles-mêmes les leurs, telles que Moto Hagio. Elles servent principalement à accentuer les décors ou à combler les pages qui pourraient sembler vides. On note également l'apparition presque systématique du motif de la fleur dans le dessin pour symboliser les émotions ou les intentions des personnages en fonction de la signification de la fleur au Japon. Les planches sont ainsi largement ornées, composées et foisonnantes pour la plupart des récits. Les autrices explorent également de nouveaux genres, le shoujo manga s'éloigne sans jamais les abandonner, des terres bien connues de la relation filiale, de la danse et du sport comme sujets centraux, et prend place dans des univers et des époques variées. La science-fiction va arriver dans les magazines de pré-publication, notamment grâce à Moto Hagio, qui explore le genre avec des titres comme Nous sommes 11, Jui Shinin Iru en japonais, à partir de 1975 jusqu'en 77 dans le Besatsu Shoujo Comic qui raconte un examen d'entrée dans une université spatiale pour un groupe de 10 futurs étudiants. Parmi eux se trouve Flore, un être extraterrestre au sexe et au genre non défini qui, s'il réussit l'examen, pourra choisir de devenir un homme. En plus de prendre place dans un futur lointain et d'imposer un récit au suspense haletant, le manga propose des réflexions autour de l'identité. Il connaîtra une suite, Est et Ouest, un lointain horizon, qui reprend les mêmes personnages mais propose une intrigue plus politique. Moto Hagio continue de marquer les esprits avec Star Red, pré-publié entre 78 et 79 dans le Shukan Shoujo Comic. Inspiré par la planète Mars et pressé par son éditeur à l'époque de produire un nouveau manga, la mangaka y raconte comment, dans un futur lointain, la surpopulation terrestre a entraîné la colonisation de nouvelles planètes et comment Mars, après l'échec des premiers colons sur son sol, a été transformé en prison puis abandonné, détenu inclus. Une nouvelle civilisation va naître de cet abandon, donnant naissance aux premiers martiens, des êtres hors du commun, aux capacités parapsychologiques surprenantes. Dans ce récit, l'autrice questionne les conséquences de la colonisation et de la décolonisation et interroge leurs différents aspects. La série, en 3 volumes, obtient en 1980 le prix Seiyun de la bande dessinée, un prix qui se consacre aux œuvres de science-fiction produites au Japon. Takemi Akeko va également se prêter à l'exercice de la science-fiction avec un titre marquant, considéré comme un classique au Japon, Destination Terra, qui a la particularité d'être pré-publié dans le Gekkan manga shonen entre 77 et 80. Le titre, adapté en film d'animation lors de sa dernière année de prépublication, a su intéresser les publics de shoujo manga du fait de son autrice qui, ainsi, fait le pont entre deux cibles éditoriales. Le titre paraît en France cette année et reprend les thématiques classiques de la science-fiction. En 3000 et quelques, l'être humain a quitté Terra, qui l'a détruit et vit dans l'espace. L'humanité est divisée en deux camps. Ceux qui vivent sous le joug de contrôle universel, un super ordinateur qui, comme son nom l'indique, contrôle chaque individu. Et de l'autre côté, les Mew, un peuple banni et ou exterminé par la société, ayant des capacités psychiques hors du commun, qui se caractérisent par un handicap physique, faisant d'eux des parias. Les deux camps ont pour but de rejoindre Terra, qui, après plusieurs siècles d'abandon, est redevenue viable. S'en suivent des confrontations idéologiques, Takami Akiko en profitant pour offrir une réflexion autour de la discrimination et du racisme, de questionner le libre-arbitre et le bien commun. Les autrices vont également s'intéresser à l'histoire avec, comme déjà précédemment cité, La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, qui, s'il n'est pas le premier shoujo manga à prendre l'histoire comme cadre spatio-temporel, est le plus populaire de l'époque et invite de nombreuses autrices à s'intéresser à des sujets historiques pour leur manga, à commencer par exemple par Takemi Akeko qui, à partir de 1974, prépublie Pharao no Aka, la tombe du pharaon, dans le Flower Comics jusqu'en 1976. L'action se situe en Égypte ancienne et raconte l'opposition entre deux civilisations de l'époque. Moins connue chez nous, mais tout aussi importante pour l'époque dans ce genre, Toshieki Hara marque les esprits par ses mangas adaptés de romans historiques européens. Balzac passe sous ses traits avec le titre « Trois histoires d'amour ». Elle adapte également la très populaire série de romans « Angélique » d'Anne Gollon, qui prend place au XVIIe siècle en France, sous le règne de Louis XIV et qui suit la vie d'Angélique, surnommée Marquise des Anges, sur 40 ans d'histoire. Parmi les titres phares de cette génération, on retrouve également I Izuru Tokoro no Tenshi, l'empereur du pays du soleil levant en français, de Ryoko Yamagishi, dont la publication commence en 1980 dans le magazine Lala. Le manga est une fiction historique sur le prince Shotoku, qui vécut au Japon entre le 6e et le 7e siècle et est connu pour avoir répandu le bouddhisme dans l'archipel. L'œuvre est d'ailleurs récompensée par le prix Kodansha du meilleur shoujo en 1983. Les artistes vont également se pencher sur le fantastique et la fantasy, œuvre marquante pour l'époque et pionnière, Po no Ishizoku de Moto Hagio, le clan Po en français, qui paraît à partir de 1972 dans le Besatsu Shoujo Comics jusqu'en 1976. Il s'agit d'ailleurs de la première sérialisation de l'autrice. Elle reprend dans cette histoire le mythe du vampire comme symbole de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Le titre tire d'ailleurs son origine d'Edgar Allan Poe, auteur du 19e siècle, connu pour ses récits fantastiques, le personnage principal partageant le même prénom que l'auteur. Il ne faut cependant pas oublier que le fantastique avait déjà fait ses preuves auprès du public féminin avec l'apparition dès 1966 de la première Magical Girl dans le manga Sally, la petite sorcière de Mitsuteru Yokoyama pour le magazine Ribbon. Moto Hagio explore d'ailleurs ce sous-genre quelques années plus tard avec L'héritier du champ de choux en 77 où un petit garçon se retrouve malgré lui entouré de sorcières et magiciennes aussi comiques qu'étranges. La particularité du clan Po est sa noirceur et sa manière d'aborder son sujet sous le prisme vampirique. Ushima Yumiko marquera de son côté les esprits avec Wata no Koniyoshi en 1978 dans le magazine Lala. Le titre popularise le Kemonomimi, les filles chats, et raconte les aventures de Chibineko, une petite fille affublée d'oreilles et d'une queue de chat, qui traverse le monde des humains et le Cottonland, un lieu où les vœux deviennent réalité. Ce manga qui questionne la jeunesse, le rejet et les tourments adolescents reçoit le prix Kodansha du shoujo manga en 78 et se voit d'ailleurs adapté en série d'animation en 1984. Enfin, grâce à la publication de Fire de Hideko Mizuno en 1969, les autrices des années 70 ont la possibilité d'aborder l'amour et la sexualité avec davantage de liberté. La romance étant le genre le plus apprécié à l'époque, les mangaka traitent inévitablement du sujet. Elles vont néanmoins aborder la thématique de l'amour sous des angles qui n'avaient jamais été exploités jusque-là auprès de cette cible éditoriale. Trois autrices vont se démarquer au tout début de la décennie, Moto Hagio, Takemi Akeiko et Ryoko Yamagashi. Les deux premières vont développer les premiers boys love, shonen ai, de l'histoire du manga. La dernière traitera de leur pendant féminin, le girls love, le shoujo ai. Inspiré par la littérature occidentale et le cinéma européen avec des œuvres comme le film français Les Amitiés particulières de Jean Delannoy, datant de 64, ou le film Mort à Venise de Visconti de 71, adapté du roman éponyme de Thomas Mann, Moto Hagio et Takemi Akeiko vont développer parallèlement deux histoires courtes. Takemi Akeiko va développer Sunroom Nite dans la véranda en 1970 pour le Besatsu Shoujo Comique, qui raconte l'histoire d'amour naissante entre deux jeunes garçons, Étoile et Serge, tandis que Moto Hagio en 1971 va proposer le Pensionnat de Novembre pour le même magazine. Cette histoire raconte comment dans un pensionnat pour garçons en Europe, la mort d'un jeune élève va entraîner tout un tas d'imbroglios relationnels et amoureux. De son côté, Ryoko Yamagishi écrit en 1971 également le récit Shiroi Era no Futari, notre chambre blanche, pour le magazine Ribbon, qui raconte l'histoire d'amour tragique entre deux élèves d'une école pour jeunes filles. À l'époque, les titres ne font pas grand bruit et leur sortie, malgré leur magazine de publication relativement connu, reste assez discrète. Il faudra attendre quelques années plus tard pour que se développe un véritable public de niche pour ces histoires d'amour homo-érotique, grâce notamment au titre Kazetoki no Uta, le poème du vent et des arbres de Takemi Akeiko qui sort en 76 dans la revue Shoujo Comics, puis dans le Petit Flower. Cette série fluff de 17 volumes reprend les personnages qu'elle avait commencé à développer dans Sunroom Nite et raconte la relation amoureuse qu'entretiennent Serge Batour et Gilbert Cocteau au sein d'une académie pour garçons dans le sud de la France à la fin du 19e siècle. Sont tour à tour abordées les questions du racisme, du viol, de la pédophilie, de la prostitution, de l'addiction, de l'homophobie, de l'abandon et de la découverte de la sexualité. Moto Hagio développe quant à elle son pensionnat de novembre en 1974 pour donner naissance au cœur de Thomas dans le Shukan Shoujo Comique. Reprenant le principe du cadre spatio-temporel du pensionnat, l'histoire se passe en Allemagne et commence par la mort du jeune Thomas. L'œuvre raconte comment trois adolescents vont, à l'issue de ce décès tragique, évoluer et grandir. L'autrice aborde ici la question de la religion et de la foi, de la parentalité et de l'amour. L'homosexualité n'est pas à proprement parler traitée puisqu'elle apparaît comme un état de fait. Le shonen ai comme le shoujo ai vont ainsi commencer à se développer, entraînant dans leur siège la création de la revue June, premier magazine de prépublication uniquement consacré au boys love à partir de 1978, avec comme œuvre phare Kazetoki no Uta. Une des œuvres majeures de la fin des années 70 dans ce sous-genre est Marito Shingo de Toshie Kihara, sérialisée de 77 à 84 dans le mensuel Lala, qui raconte une romance entre deux jeunes hommes pendant l'ère Showa. Moto Hagio développe une grande partie de son œuvre autour du boys love, expliquant que, je cite, « Les boys love me libèrent des restrictions qu'on impose aux personnages féminins sur le comportement qu'elles devraient avoir dans la société japonaise. » À la même période que se développent les premiers boys love et girls love, Yumiko Oshima va bousculer les conventions en proposant au magazine Margaret le titre Tenjo en 1970. C'est l'histoire d'une jeune adolescente, Asami, qui tombe enceinte alors qu'elle est encore scolarisée et qui souhaite garder son enfant, n'hésitant pas à aller à l'encontre de ses parents pour faire valoir son choix. Le titre fut très controversé à sa sortie, la question de l'avortement étant abordée et plutôt mal vue au Japon. La mangaka écrit également sur l'homosexualité avec son titre Banana Bread No Pudding, Young en 78 dans le magazine Seventeen. Le traitement reste cependant assez sommaire et l'autrice développe davantage les troubles psychologiques de son personnage principal. La même année, Ryoko Ikeda propose aux lectrices du magazine Margaret le titre Claudine qui aborde la transidentité et les difficultés de son personnage principal à vivre dans un corps féminin alors même qu'il se sent homme. Les questions d'identité de genre, Ryoko Ikeda les aborde depuis la sortie de La Rose de Versailles en 72. Elle reviendra dessus dans Onisama E, Très cher frère en 75 avec le personnage de Saint-Just, et la relation que cette jeune étudiante entretient avec le personnage principal du manga, Nanako. Le sujet reviendra aussi dans Orpheus Nomado, La fenêtre d'Orphée, la même année. Les deux titres sont prépubliés dans le magazine Margaret. Takemiya Keiko, de son côté, proposait en 76 le titre Natsue no Tobira au magazine Anatoyume, qui met en scène une relation amoureuse adultère entre une femme adulte et un adolescent, Marion. La plupart des titres cités dans cette partie ont participé à faire évoluer le manga scolaire, c'est-à-dire les mangas qui prennent place au collège ou au lycée, s'inscrivant dans la tradition des romans initiés dans les années 60. Pour conclure, parce que cet épisode est déjà bien long, et pour synthétiser, il faut comprendre que les innovations qui eurent lieu dans le shoujo manga dans les années 60 ont permis aux autrices des années 70 de jouir d'une grande liberté de création. Comme je le disais en introduction, il était essentiel pour moi de revenir aux origines afin de mieux comprendre et de mieux appréhender cette évolution significative. Parce que si les mangaka des années 60 ont ouvert une voie à celle des années 70, ces dernières ont tout simplement permis aux suivantes, à partir des années 80, d'écrire sur tout ce qu'elles voulaient et d'aborder autant de sujets qu'elles le souhaitaient. C'est grâce à ces femmes qui ont bravé les conventions et les attentes de leur lectorat et aussi de leur époque que des titres comme Banana Fish par exemple d'Akimi Yoshida ou d'autres ont pu voir le jour. Parce qu'il est toujours facile de nommer un mouvement a posteriori, ici le groupe de l'an 24, il est en revanche beaucoup moins évident de gratter la surface pour comprendre comment tout ça est le résultat d'une évolution graduelle. Cet épisode est le fruit d'une année entière de travail, de lecture, de recherche et de visionnage. Il m'a fallu, et croyez-moi, ça me brise le cœur, faire des choix constamment et revenir sans cesse sur mes acquis, croiser les sources pour vous offrir quelque chose qui, je l'espère, est le plus complet et le plus exhaustif possible. Bien sûr, j'aurais pu m'étendre encore, citer davantage de mangaka, revenir sur d'autres titres, mais je souhaitais avant tout vous permettre d'avoir une vision globale de tout ça. Par cet épisode, je voulais aussi sortir de l'ombre ces autrices qui ont longtemps été oubliées et mettre à mal cette idée toute faite que les femmes n'ont pas écrit de manga avant les années 70. Parce que c'est faux et parce que ce sont elles aussi qui ont permis de développer les productions destinées à cette cible éditoriale qu'est le shoujo. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue logorée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Immersive. 誰もが持ってる二つの見えない器昨日の喜び昨日悲しみこれまでの全て捨てましょうあなたのために恋のために